Bon, d'abord, il faut dire deux mots sur l'Empire austro-hongrois, qui est une espèce d'animal politique étrange qui s'étend sur le centre de l'Europe pendant quelques siècles et qui va s'éteindre en 1918. Alors, j'ai essayé d'imprimer un plan de l'Empire austro-hongrois à son époque de gloire, mais mon imprimante est lamentable. Donc, ça a donné ça. Bon, pas formidable. Il manque les frontières. Hein. On ne sait pas où termine l'Empire et commence l'Allemagne. Bon, peut-être c'est prémonitoire. Mais en tout cas, ce n'est pas très pratique. Mais enfin, ça donne une idée que l'Empire austro-hongrois était un vaste ensemble multinational, hein, où il y avait deux gens de culture allemande, les Autrichiens, bon, les Hongrois. Hein, dans cet ordre, d'abord les Autrichiens, ensuite les Hongrois, il y avait une hiérarchie très 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 précise. Ensuite, la Tchécoslovaquie, mais ce qu'on appelait la Böhmen und Mähren, la Bohémie et la Moravie, bon, deviennent les ancêtres de Doris. Et ça, c'était le cœur, disons. Et ensuite, la périphérie, ça allait très loin. Hein. Ça allait du côté de ce qui est aujourd'hui la Roumanie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la Boucovine, Tchernovitch, au nord vers la Pologne, la Galicie, bon, une province très peuplée des Juifs d'ailleurs, bon, et vers le sud jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Yougoslavie, c'est-à-dire la Serbie, la Bosnie, Sarajevo, cette ville qui nous rappelle des choses, bon, etc. Bon, un morceau de l'Italie, bon, voilà, c'était assez énorme. Bon, ça a tenu, hein, quelques siècles, bon. Et évidemment, les Juifs étaient un peu partout, hein, étaient un peu partout. Et notamment à Vienne, la capitale de l'Empire, il y avait beaucoup de Juifs, autour de 10% de la population au début du XXe siècle. Bon, je fais circuler ça, vraiment, excusez-moi, c'est assez lamentable, mais bon, c'est la faute à mon imprimante. Bien. Alors, cet empire qui... Bon, avait comme son sommet, son symbole, l'empereur, bon, par définition, hein, le Kaiser Franz Joseph, l'empereur François-Joseph, qui était non seulement empereur, Kaiser, mais aussi roi, König, roi de l'Hongrie. Bon, c'est un accord bizarre qui a eu lieu au XIXe siècle entre l'Autriche et la Hongrie. En fait,
monsieur, il faut ajouter notre empereur bien-aimé.
Bien-aimé, bien sûr, bien sûr, bien. Oui. Mais donc, il y a eu un si nommé compromis entre l'Autriche et la Hongrie qui fait que l'empereur est empereur de tout l'Empire, mais il est aussi roi de la Hongrie. Bon, alors, ça pour conséquence que tout le document officiel de l'Empire avait pour en tête ce qu'on dit en allemand, K und K, c'est-à-dire le royaume, l'Empire et les royaumes. Bon, alors la poste était la poste impériale et royale. Le train était train impérial et royal. Les pianos que ma mère a portés de Vienne étaient impérial et royal, etc. Tout était K und K. Königlich, kaiserlich und königlich. Kaiserlich, K und K, K, bon, partout K und K. Ça fait que le célèbre écrivain Robert Musil, dans son livre L'homme sans qualité, parlait de cacanien. Hein, Kakanien, la Kakanie. Bon, terme ironique pour désigner l'Empire austro-hongrois. Bon, voilà, donc cet empire, cette Kakanie, bon, était donc multinationale, et parmi les nations, cette nation bizarre, qui on se demande est-ce que c'est une nation ou pas, en tout cas, cette communauté, soudée par des liens ethniques, point d'interrogation, religieux, point d'interrogation, historique, sans doute, culturel, etc., qui étaient les Juifs. Bon. Partout hein, dans l'Empire, en Galicie, beaucoup, en Bukovina, à Tchernovitch, beaucoup, à Budapest, bon, Prague, évidemment, et Vienne, comme j'ai dit. Bien. Alors, dans cette communauté juive, on trouve de tout, on trouve des industriels, des banquiers, des commerçants, des professeurs, des docteurs, des avocats, des gens pauvres aussi, pas énormément, mais il y en avait. Et on trouve de Luftmenschen, des gens qui vivent de l'air, bon, etc. De tout. Mais on trouve... Ah, il y a de la musique là, c'est bien. On trouve beaucoup d'intellectuels, dont certains brillants. Hein, brillants. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une une contribution de juifs à la culture austro-hongroise, à la culture de l'Europe centrale et à la culture allemande. Parce que la majorité de ces intellectuels juifs, qu'ils soient de Budapest, de Prague, de Tchernovitch ou de Vienne, ils étaient des cultures allemandes. Hein. Ça, c'est un élément intéressant. Pas tous. Hein. Une partie en Galicie était encore yiddishophone. Mais enfin, la plupart étaient des cultures allemandes. Bon. Alors là, on trouve donc une pléiade impressionnante d'intellectuels. Bon, je ne vais pas faire la liste parce qu'on passerait la nuit à énumérer des noms et ce n'est pas très intéressant, mais je cite juste quelques-uns parmi les plus connus. Bon, des écrivains. Hein? Bon, Stefan Zweig, bien entendu, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Josef Roth, etc. Bon, très longue liste. Des penseurs, hein, au sens large. Et là, il y a une figure qui est vraiment comme une tour, comme ça, un peu plus haute que les autres, Sigmund Freud. Hein, Sigmund Freud, bien entendu. Et puis, de personnages politiques, là aussi dans un éventail très large, qui va des sionistes, bon, avec Theodor Herzl, fondateur du sionisme, qui vivait à Vienne. Bon, les social-démocrates, hein, Max Adler, Otto Bauer, Julius Deutsch, etc., etc., et aussi, bon, même jusqu'au communiste Ernst Fischer, bon, on en trouve dans, surtout à gauche, disons, beaucoup de juifs. Bien, etc. Bon, je dis, je ne vais pas faire toute la liste, je vais revenir après sur quelques noms, Kafka notamment, bon, on va parler de Kafka. Bon. Bien. Alors, première question qu'on peut se poser, pourquoi tellement d'intellectuels? Pourquoi tellement d'écrivains, d'artistes, de penseurs? Bon, pourquoi? Bon, on peut trouver que notre communauté est particulièrement douée, etc. Mais enfin, ça n'explique pas pourquoi, à ce moment-là, hein, pourquoi à la fin du 19e, début du 20e siècle. Bon, il y a un élément qui est, fait partie de la tradition juive, bien entendu, c'est qui est, bon, la tradition juive valorise énormément le travail intellectuel, la lecture, des textes sacrés, la discussion des textes sacrés, les commentaires, bon, bien. Ça, c'est évident, c'est un élément. Mais, bon, ça, bon, pendant des siècles, les Juifs pratiquaient la lecture de la Bible du Talmud, mais ça restait, bon, ils restaient enfermés dans le ghetto, bon, dans leur choule, dans leur shtetl, bon, ils pratiquaient les commentaires du Talmud, mais bon, ça portait, ça n'avait pas un impact sur la culture européenne. Bon, là, il y a un changement, parce que ces intellectuels juifs-là, ils sont ils sont pas dans les ghettos, ils sont dans la culture de l'Europe centrale, dans la culture de l'Empire. Bon. Donc, là, c'est quelque chose qui a changé, et qui est, bon, un processus de émancipation très limité, avec beaucoup de contradictions, mais quand même, certaines émancipations des juifs, et un processus d'assimilation. C'est-à-dire les juifs s'assimilent. Hein. Et déjà, pour commencer, ils arrêtent de parler et d'écrire en yiddish pour parler et écrire en allemand. Donc, ce qu'ils écrivent devient lisible par toute la population. Hein. Bon, c'est un changement capital. Bon, et... bon, autre chose qu'il faut dire, et ça c'est propre à l'Europe centrale, l'Empire austro-hongrois, mais aussi l'Allemagne, c'est aussi la valeur qu'on donne aux intellectuels, et notamment aux universitaires, dans la culture de l'Europe centrale. Bon, je donne juste un exemple. Quand on dit en France un professeur, bon, c'est quelqu'un qui enseigne dans un lycée. En Allemagne, Herr Professor, c'est une éminence, c'est un universitaire, un personnage extrêmement respecté. C'est un titre, bon. En France, docteur, c'est un médecin. Bon. En Allemagne, Herr Doktor, c'est un titre universitaire dont qu'on utilise partout. On s'appelle Monsieur le Docteur, hein, Herr Doktor, ou Herr Professor Doktor, Monsieur le Professeur Docteur, chose en France inimaginable. Bon, c'est parce qu'il y a une valorisation très grande dans la culture allemande, donc de l'Empire austro-hongrois et de l'Allemagne, de cette position académique, intellectuelle, universitaire, etc. Bon, ça pour résultat que, au fur et à mesure que les familles juives vont s'intégrant dans la société, d'abord en termes économiques, c'est-à-dire d'abord l'essor de juifs, c'est économique, bon, ils deviennent banquiers, industriels, commerçants, comme je le dis, mais dans un deuxième moment, ses parents ont envie que leur fils ne soit pas simplement héritier de leur commerce ou de l'industrie. Ils veulent qu'il étudie, hein. Ils veulent qu'il ait des titres. Hein. Donc, on envoie les fils à l'université. Donc, c'est à partir de ce moment-là, fin du 19e, début du 20e, qu'on voit apparaître, pas des individus, mais une masse, toute une classe sociale d'intellectuels juifs, hein, dont certains, évidemment, vont se détacher et vont devenir des grandes figures de la culture du XXe siècle. Bon. Donc, il y a ces différents éléments qui expliquent pourquoi ça se passe à ce moment-là. Bon. Mais il y a ce facteur qui est l'assimilation. Bon, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, il y a un processus d'assimilation des Juifs qui va très, très loin en Europe centrale. Très, très loin. Je vais donner quelques exemples drôles de ma propre famille, hein. Une famille qui est venue, disons, de la Bohémie, en Tchécoslovaquie, à Vienne. Je pense que c'est mon arrière-grand-père, le premier qui est arrivé à Vienne, du côté de ma mère et du côté de mon père, l'arrière-grand-père, bon, est venu de la Hongrie. Bon, mais ils sont tous allés à Vienne. Il y avait une tendance, n'est-ce pas, dans l'Empire, pour le juif d'aller à Vienne, parce que c'est là où les choses se passaient, qui étaient les centres culturels, donc, économique, donc on débarquait à Vienne. Bon. Mon grand-père maternel, qui s'appelait Löwinger, était croyant. Et son père à lui, Jacob, était encore plus croyant, hein, bien sûr. Mais quand mon grand-père est né, déjà à Vienne, son père à lui, qui était encore plus religieux que lui, qu'est-ce qu'il lui a donné comme nom, hein, quand il a, bon, fallait lui donner un nom. Il appelait pas ni Jacob, ni Moïse, ni Abraham, ni Israël, ni Tzrak, rien du tout. Il a appelé Wilhelm. C'est-à-dire un nom le plus germanique possible, parce que c'était le nom du Kaiser allemand. Hein? Bon, plus germanique que Wilhelm, on meurt, hein, comme on dit. Bien. Donc voilà mon grand-père. Maternel, Wilhelm Löwinger. Bien. Maintenant, mon grand-père paternel, l'autre famille, Levi, venu de Tchéquie, enfin de Bohémie, croyant lui aussi, un peu moins, mais croyant quand même. Son père, évidemment, beaucoup plus croyant. Alors, quand mon grand-père est né à Vienne, son père, un juif croyant, qu'est-ce qu'il lui a donné comme nom ? Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Yitzhak, ce n'est pas Yago, c'est Wilhelm. Donc j'ai deux grands-pères Wilhelm, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est un petit exemple, mais qu'est-ce que c'est l'assimilation? On veut être germanique, même si on est juif, même si on est croyant, même si on va à la synagogue, on veut être germanique. Et comme on ne peut pas changer son nom, on met un nom germanique dans son fils. Bon, un autre petit exemple aussi de ma famille. Bon, quand dans ma famille, mon père ou ma mère, ou des oncles, enfin, on voulait dire zut, hein, l'équivalent en français de zut, on disait Jesus Marant Josef. Hein, tu dois connaître ça. Jesus Marant Josef. Tu connais cette expression? Bon, Jesus Marant Josef, ça veut dire simplement Jésus, Marie, Joseph. Hein, Jésus, Marie, Joseph. C'est une exclamation. Zut, mon Dieu. Hein, bon, Jesus Marant Josef. Hein, qui. Pourquoi ce toit s'est écroulé? Yes, ça se marrant, n'est-ce pas? Bon, on dit, et ils n'étaient pas du tout, enfin, ma famille, c'était des gens qui avaient une identité juive très affirmée. Ils étaient militants sionistes, n'est-ce pas? Bon, ils se considéraient comme juifs, et pas comme autrichiens ou allemands, non, ils se considéraient comme juifs. Mais au moment de dire zut, ils disent Jésus, Marie et Joseph. Pas? Bon, voilà, c'est des petits exemples qui montrent jusqu'où allait l'assimilation, même chez des gens qui étaient croyants ou qui étaient sionistes, etc., etc. Bon. Alors, cette assimilation pouvait prendre parfois des formes extrêmes. La forme la plus extrême, c'est ce qu'on appelle la haine de soi. Bon. Alors, il ne faut pas dire tout le monde qui fait une fois une critique des juifs qu'il est déjà victime de la haine de soi. Mais il y avait des gens qui étaient vraiment malades de la haine de soi. Et l'exemple le plus frappant, c'est aussi un juif autrichien, viennois, qui s'appelle Otto Weininger. Vous avez probablement entendu le nom. Qui a écrit un pamphlet qui est à la fois antisémite et misogyne, hein, contre les femmes et les juifs. Mais lui-même était juif, donc situation désespérée. Et la seule solution qu'il a trouvée, c'était de se flinguer, se suicider. Bon, donc, la haine de soi conséquente, c'est les suicides. Hein, bon, comme Otto Weininger. Bien, mais c'est un cas vraiment extrême. Mais il y a beaucoup d'autres cas où, comme je disais, l'assimilation va très loin, jusqu'à la conversion. Et pas vraiment la conversion obligée, parce qu'au XIXe siècle, par exemple, Heinrich Heine s'est converti, mais lui-même dit, bon, je me suis converti parce que c'était mon ticket d'entrée dans la culture européenne. Mais il ne croyait pas, bon, il s'est converti comme ça. Bon, au XXe siècle, ou à la fin du XIXe, début du XXe, bon, il n'y avait plus cette obligation de se convertir. Et donc, les juifs qui se convertissaient, c'est parce qu'ils croyaient. Bon, et un exemple que je cite, c'est l'écrivain Franz Werfel. Hein, Franz Werfel, qui est un écrivain juif assez connu. Bon, il écrit le 40 jours de Mouzadak, par exemple, sur le génocide des Arméniens, etc. Bon, il s'est converti au catholicisme, il est devenu catholique, mais vraiment pur et dur. Il a écrit un livre sur le Sainte Bernadette, le miracle, bon, etc. Il était catholique, bon, comme ça, Franz Werfel. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres. L'autre écrivain, bon, là, c'est un écrivain allemand, Alfred Döblin, mais enfin, c'est la même histoire.
Mendelssohn, il n'était pas juif.
Mendelssohn, oui, mais ça, c'est une vieille histoire. D'abord, c'est en Allemagne, c'est pas en Autriche, et ça se passe au 18e. D'abord, il y a le philosophe Mendelssohn, bon, qui, lui, ne s'est pas converti, il était... Bon,
il
y a Karl Kraus. Attends, je finis avec Mendelssohn. Bon, après, son fils, les musiciens, s'est converti. Félix Mendelssohn, oui, les musiciens s'est converti. Oui, effectivement. Et ça, c'était au 19e siècle. On peut dire au 19e siècle, il y avait une telle pression qui, si on voulait devenir, faire carrière, disons, comme Mendelssohn voulait faire une carrière musicale, bon, c'était difficile si on n'était pas converti. Mais à la fin du 19e, début du 20e, il n'y avait plus cette obligation. Donc, Werfel n'était pas obligé de se convertir. Bon. Donc, mais il l'a fait. Qui est-ce qu'on a mentionné un autre nom?
Comment ça s'écrit, Werfel? Werfel,
W-E-R-F-E-L.
Mahler,
Mahler était juif aussi.
Mahler,
oui.
Un nom.
Comment?
C'est pas Mahler qui a poussé.
Là, oui, sa femme l'a poussé, effectivement.
Il
bon.
Faut laisser finir le nom.
D'accord. Bon, je continue. Un autre écrivain, il y a un cas intéressant, c'est Joseph Roth. Je pense qu'il s'est converti aussi, mais non seulement ça, c'est devenu vraiment l'écrivain de la nostalgie de l'Empire austro-hongrois, hein, et de la monarchie même, il était monarchiste. Hein. Bon, c'est vraiment de choses... Bon, voilà, les grands écrivains qui font la célébration de l'Empire, c'est un juif, bon, c'est Joseph Roth. Bon. Donc, il y avait ce processus d'assimilation qui prenait des formes parfois très radicales, parfois des formes plus modérées. Mais il y avait aussi un contre-courant qu'on peut appeler le courant de la dissimulation. Pas dissimulation, mais dissimulation. C'est-à-dire les gens qui veulent pas, qui veulent, disons, ne plus s'assimiler, mais s'affirmer leur identité juive. Bon, et là aussi on trouve des personnages, bon, Herzl évidemment, Theodor Herzl, c'est le cas le plus connu, mais aussi Martin Buber. Martin Buber va jouer un rôle très important dans ce processus en inspirant plusieurs générations de jeunes juifs de l'Empire austro-hongrois et aussi de l'Allemagne à choisir une identité juive, sioniste, une espèce de sionisme culturel. Bon, Mais c'est intéressant que même Herzl et Buber, d'abord, étaient très assimilés. D'abord, ils se sont assimilés à la culture allemande. Après, ils ont trouvé leur identité juive. Mais même leur identité juive, elle reste marquée par la culture allemande. Ça vaut aussi bien pour Herzl. Herzl, quand il imaginait l'État juif, il se disait, quelle langue va parler l'État juif ? Évidemment, parler yiddish, un dialecte, un jargon. Et évidemment, pas l'hébreu, qui est une langue morte. Et on va parler l'allemand dans l'État d'Israël, n'est-ce pas? Bon, ça c'est Herzl. Et Martin Buber, bon, si on lit ses textes sur le chassidisme, on voit que c'est un chassidisme lu avec les lunettes du romantisme allemand. Bon, je ne peux pas m'étendre, mais on voit qu'ils ne peuvent pas sortir, disons, de leur culture germanique, même s'ils ont fait les choix de la dissimulation et de l'identité juive. Bon, maintenant, je vais donner quelques exemples, mais de façon vraiment très très rapide, de rapports de ces intellectuels au judaïsme. Comment, disons quelques exemples de comment ils se sont rapportés au judaïsme à tel ou tel moment de leur carrière. Bon, il y a d'abord Freud, Sigmund Freud. Bon, c'est un très vaste sujet, Freud et le judaïsme. Il faudrait passer des heures là-dessus. D'ailleurs, je ne suis pas le plus compétent. Mais je vais donner juste un exemple pour montrer le rapport de Freud au judaïsme. Bon, Freud est un juif très assimilé, encore une fois, ni croyant, ni sioniste, ni... Bon, il n'y avait rien. Bon, il ne faisait pas partie de la communauté. Bon, non. Il était vraiment très assimilé, un juif très assimilé. Bon. Mais en même temps, bon, on trouve dans ses écrits, il y a des références, constamment ça revient, bon, des questions, des thèmes juifs. Et surtout, curieusement, il avait cette idée, à tort ou à raison, que la psychanalyse, au fond, c'est une école juive. Bon. Parce que c'est vrai qu'au début, la grande majorité des disciples étaient des juifs. On voit leur nom, Abraham, Ferenczi, etc. Bon, la plupart étaient des juifs. Et il y a une lettre très curieuse de Freud à Abraham, son disciple, à propos de Carl Jung. Alors, Carl Jung, lui, n'était pas juif du tout, même absolument pas juif. C'est un Suisse chrétien, fils de pasteur. Alors, donc Freud les reçoit, dans les petits cercles de psychanalystes, et il écrit cette lettre à Abraham en 1929 en disant Carl Jung a beaucoup de mérite. Imagine-toi comment un chrétien, fils de pasteur, comment est-ce qu'il a pu comprendre notre théorie, n'est-ce pas? Ça a dû lui coûter un effort énorme. Tandis que pour vous autres, bon, qui êtes juifs, ce n'est pas tellement difficile. Mais pour lui, ça doit être vraiment très très dur. Donc il a beaucoup de mérite. Et il ajoute, je suis content qu'il a entré dans notre cercle, parce que grâce à lui, la psychanalyse va cesser d'être une affaire nationale juive. C'est très étrange cette lettre. Donc, grâce à Jung, ouf, il y a un goy, il y a un chrétien. Bon, on ne pourra plus dire que la psychanalyse, c'est une affaire purement juive. Bon, évidemment, oui et non, parce que, bon, l'affaire a mal tourné, parce que Jung, non seulement s'est bagarré avec Freud quelques années après, mais s'est manifesté de plus en plus comme antisémite et a fini du côté du nazisme. Bon, il était sympathisant du nazisme. Donc, ça a mal fini l'histoire. Mais enfin, tout ça, c'est pour montrer que Freud, ce juif très assimilé, mais au fond, il concevait la psychanalyse comme une théorie juive et l'école psychanalytique comme une école juive. Bon, c'est très, très étonnant, c'est paradoxe, ce type de paradoxe. Bon, maintenant, je vais donner un autre exemple qui est beaucoup moins connu, mais bon, sur lequel je travaille un peu, qui est Georges Lukács. Alors, Georges Lukács, d'ailleurs, Lukács, ce n'était pas le vrai nom de sa famille, son père s'appelait Löwinger, comme ma grand-mère maternelle, ma mère. Löwinger. Et son père, qui était banquier, a acheté les titres de noblesse hongrois, von Lukács. Hein? Bon, son vrai nom était Löwinger. Bien. Donc, George Lukács, qui commence sa carrière comme un critique littéraire, un philosophe brillant, mais qui va devenir plus tard, avec la révolution hongroise de 1918, marxiste, communiste, et un de dirigeants, un des commissaires du peuple, comme on disait à l'époque, de la République hongroise des conseils, qui va durer juste quelques mois, en 1919. Pratiquement tous juifs, d'ailleurs. Hein, Bélarkoun, Lukács, etc. Bon, tous ces dirigeants de la commune de Budapest, de la République hongroise du Conseil, presque tous juifs. Et évidemment, quand ils vont être vaincus, il y aura une terrible vague antisémite en disant, voilà, les juifs, etc., communistes. Bon. Enfin, ça, c'était Lukács en 1919. Mais avant, en 1911, Lukács n'a pas encore découvert le marxisme, il est encore un penseur, disons, un critique de la culture. Bon. Et à ce moment-là, c'est le seul moment dans sa vie où il s'est intéressé au judaïsme, hein, ni avant ni après. Après, le judaïsme disparu. Hein, on ne trouve aucune trace d'intérêt pour le judaïsme. Mais il y a un moment où il découvre le judaïsme. Et il découvre le judaïsme, comme beaucoup de juifs intellectuels d'Europe centrale, grâce à Martin Buber. Hein, c'est Martin Buber qui l'a ouvert les yeux. Hein. Bon. Donc, il va lire Martin Buber, il va correspondre avec Martin Buber, il y a une correspondance entre les deux, qui n'a pas été publiée, mais j'ai pu la consulter dans les archives. Et il a même écrit un article qui s'appelle, en hongrois, Jidomysticismus, le mysticisme juif, dédié à Buber, au chassidisme et à la mystique juive. Pour dire, voilà, il existe une mystique juive aussi importante que celle des chrétiens, etc., des catholiques ou des protestants. Bon. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a quelques années, hein, de 1911 à 1916, je pense, va durer cet intérêt. Et on a un témoignage là-dessus qui est curieux aussi d'un ami, 1914, un ami Lukács, George Lukács, qui était, lui, juif aussi, Béla Balázs, qui était, lui, va devenir un des grands théoriciens du cinéma, un des grands penseurs, disons, du cinéma au XXe siècle, Béla Balázs. Bon, ils étaient très amis, Lukács et Béla Balázs, dans leur jeunesse, et Béla Balázs avait un journal intime où il notait des choses qui a été publié beaucoup plus tard, et il y a l'entrée suivante sur Lukács, que je trouve vraiment intéressante. La grande nouvelle philosophie de Gyuri, Gyuri c'était le nom familier de George Lukács, le messianisme. Gyuri a découvert en lui les juifs, la recherche des ancêtres, la secte chassidique, Baal Shem. Maintenant, il a trouvé lui aussi ses ancêtres et sa race. Seulement moi, Béla Balázs, je suis seul et abandonné. La théorie de Gyuri sur l'émergence d'un type juif ascète antirationaliste qui est l'antithèse de ce qui est habituellement décrit comme juif. Bon, c'est vraiment très intéressant cette remarque. Et ça montre vraiment un processus parmi beaucoup de ces intellectuels d'une espèce de soudaine découverte, hein, une espèce de soudaine révélation. Bon, je suis juif, j'ai des racines juives, y a des choses intéressantes dans le judaïsme, la mystique, le messianisme. Bon, il y a disons, c'est une configuration qu'on va retrouver chez beaucoup d'autres, mais qui apparaît chez Lukács, mais vraiment pendant une courte période, hein, de 1911 à 14, après ça s'est disparu petit à petit, et après plus jamais, hein, plus jamais, rien. Ça se passe comme ça. Bon, un autre cas de figure, dont je voulais vous parler un peu, il est aussi, bon, en France il est quand même assez connu, c'est Manesh Perba. Ah oui. Manesh Perba. Parce qu'il a vécu en France pendant de longues années. Bon, Manesh Perba, il venait de la Galicie. Hein, donc cette région, maintenant fait partie de la Pologne. Où il y avait beaucoup de juifs, à Lemberg, Lvov, etc. Bon. Et donc il est né dans un shtetl, un petit village juif, éduqué éducation religieuse, langue yiddish, mais bientôt il a envie de sortir du shtetl, bon, d'entrer dans la culture de l'Empire. Il commence à apprendre l'allemand et finalement il va à Vienne. Et là, on voit une transformation qui est vraiment intéressante. Bon, il passe là, disons, en passant de Galicie à Vienne, il passe du yiddish à l'allemand. Fini, les juifs à Vienne ne parlent plus yiddish, sauf quelques mots comme ça pour dire Nebi ou Mazel Tov, des choses comme ça. Mais enfin, on ne parle plus yiddish et c'est un peu mal vu. Parler yiddish, c'est vraiment un peu mal vu. Non, j'exagère pas, hein?
Oui.
Bon, on parle allemand, voilà, comme des gens civilisés, entre guillemets. Bon, donc, Mannesper va passer du yiddish à l'allemand. Et il va passer aussi de la religion messianique, dont il parle dans ses souvenirs, au socialisme. Au socialisme. Et du messianisme à la révolution. Ce passage est très frappant, il le décrit dans ses mémoires. Mais, en même temps, bon, donc il va s'assimiler, il va se séculariser, il passe du religieux au séculaire, le messianisme se sécularise en socialisme, mais il garde encore l'identité juive, parce qu'il va adhérer à un mouvement de jeunes sionistes, qui est le Hachomer Hatzair, bien connu, l'Hachomer Hatzair, qui avait un de ses centres à l'époque à Vienne. Vienne était vraiment une des villes les plus importantes de Hachomer Hatzair en Europe. Et Hachomer Hatzair, à cette époque, n'était pas encore marxiste, il était plutôt proche de l'anarchisme, très influencé par un autre penseur juif allemand, Gustav Landauer, dont je ne veux pas parler parce qu'il est en dehors de l'Empire austro-hongrois, il est plus au nord, en Allemagne, en Bavière. Bon, donc, voilà, c'est le jeune Mannesperm va adhérer à l'Hachomer Hatzair, mais bon, il va investir dans l'Hachomer Hatzair toute cette charge messianique, révolutionnaire, l'attente imminente de la révolution européenne. Bon, tout ça, c'était, disons, dans ces mouvements de la périphérie vers les centres, du shtetl vers Vienne, et la sécularisation du messianisme en utopie révolutionnaire. Bon, après, par la suite, il va suivre un chemin un peu différent, il va s'intéresser à la psychanalyse, il va devenir l'assistant de Alfred Adler, qui était un psychanalyste dissident, mais juif aussi, et plus tard, il va adhérer au mouvement communiste pendant quelques années. Bon, donc c'est un autre chemin. Mais quand il passe par Vienne, il passe quelques années à Vienne, c'est ce moment-là de cette transition, disons, du shtetl vers la grande ville et la sécularisation du messianisme dans l'utopie. Ça, on va trouver aussi dans beaucoup d'autres exemples. Alors, j'arrive maintenant à mon dernier exemple qui est Franz Kafka. Alors, j'ai déjà parlé de Kafka ici, je pense, il y a quelques années. Bon, peut-être que je vais me répéter, mais bon, je vais dire simplement deux ou trois choses sur Kafka. Qui est peut-être de tous ces personnages de la culture juive d'Europe centrale, avec Freud, celui qui a eu le plus grand impact dans la civilisation, pas simplement d'Europe centrale, et d'Europe du monde, on peut dire. Freud et Kafka sont vraiment des gens qui ont laissé leur trace sur la culture humaine, si on veut dire. Bon, voilà. Alors, Kafka, les rapports de Kafka, donc Kafka, c'était, comme tous les juifs pragois, il parlait l'allemand. Bon, ça c'est évident. Et c'est curieux, quand il était étudiant à l'université, il était très ami avec un autre jeune juif qui s'appelait Shmuel Hugo Bergman, qui lui était sioniste. Kafka, à l'époque, n'était pas sioniste, il était socialiste. Donc il se bagarrait beaucoup. Ils étaient amis, mais ils se bagarraient tout le temps. Mais parfois, ils se trouvaient d'accord. Alors, il y a une scène curieuse, une petite anecdote qui est curieuse. Les deux jeunes étudiants adhèrent à l'association des étudiants allemands de Prague. Pourquoi ? Parce que leur langue, c'est l'allemand. Donc, ils se disent tout naturellement, bon, on ne va pas adhérer à l'association des étudiants tchèques, parce que ce n'est pas vraiment notre culture, mais nous allons adhérer à l'association des étudiants allemands. Alors, sauf que il n'y avait pas que les juifs qui parlaient l'allemand, il y avait une minorité allemande importante à Prague. Hein. Et l'association des étudiants allemands, la majorité était des Allemands, pas des juifs, hein, bon, qui vivaient à Prague. Alors, la première réunion de l'association, ils vont tous les deux, les deux petits juifs vont à la réunion. Et bon, il y a des discours patriotiques, etc., qui les ennuient énormément. Et à la fin, tout le monde s'élève pour chanter « Die Warte am Rhein »,« Die Warte am Rhein »,« La garde sur le Rhin », chanson patriotique anti-française, revancharde, etc. Bon, tout le monde s'élève solennellement, sauf les deux petits juifs qui restent assis. Et les autres sont furieux et les jettent dehors. Bon, voilà, ça c'est un peu, n'est-ce pas, les contradictions, disons, de l'assimilation. Bon, mais le rapport de Kafka au judaïsme, c'est très complexe, et je ne peux pas vraiment entrer dans beaucoup de détails, ça serait le sujet de toute une conférence. Mais bon, disons que Kafka était un juif très assimilé, qui n'était pas vraiment croyant. Hein. C'est-à-dire, il avait une sensibilité religieuse très forte. Il s'intéressait beaucoup au judaïsme, à la culture juive, au yiddish et même à la religion, mais il n'était pas vraiment croyant. Ça, bon, c'est une conclusion que j'ai qui est discutable, parce que Max Brod, par exemple, qui était son meilleur ami, disait non, Kafka était croyant, hein, et son œuvre est celle d'un croyant. Et il interprète toute l'œuvre de Kafka à la lumière du Talmud et de la Kabbalah, etc. À mon avis, enfin pas seulement mon avis, il y a un consensus assez large pour dire que ça ne colle pas, ça ne marche pas. Donc je ne pense pas qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il était croyant. D'ailleurs, lui-même le dit dans son journal intime, il y a une phrase qui est célèbre, qui est très connue, où il dit, je la cite, ça résume un peu son rapport au judaïsme, je n'ai pas réussi à attraper la dernière pointe du manteau des prières juives qui s'envolent comme les sionistes. Hein? Bon, c'est ironique. Hein? Bon, il y a le manteau, comment il s'appelle le manteau des prières juives, j'ai oublié le nom. Hein? Les Thales, oui. Les Thales qui s'envolent, qui s'en va. Bon, les sionistes réussissent encore à attraper les derniers morceaux. Bon, moi, non. Je regarde dans mon coin. Non. Voilà. Voilà. Ça, c'est donc première chose. Hein. Il n'est pas vraiment croyant, pas vraiment sioniste, mais quand même, les judaïsmes, c'est important pour lui. Et à partir d'un certain moment, le sionisme aussi va l'intéresser. Il va même envisager un voyage en Palestine, bon, vers la fin. Bon. Donc, le judaïsme, c'est quand même quelque chose d'important pour lui. Et je voudrais illustrer l'importance du judaïsme pour lui, pas simplement dans sa vie personnelle, hein, ses rapports avec les femmes, etc., mais dans son œuvre. Et je voudrais donner l'exemple du procès. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça la dernière fois, mais enfin, peu importe. Alors, le procès, qui est un des grands romans de Kafka, un roman traduit dans toutes les langues de la planète, et, bon, dont Orson Welles a fait un film magnifique, même si la fin n'est pas très conforme. Bon. Alors, les procès, on dit souvent, c'est un livre prophétique. Ce qu'il a décrit là, c'est ce qu'on va connaître plus tard par les procès de type totalitaire, que ce soit par Staline ou le nazisme, etc. Bon. Bien. Donc, voilà une lecture tout à fait légitime du procès qu'on peut accepter. Mais ça, c'est pas une lecture historique. Hein. C'est bon, on rend hommage à l'esprit prophétique de Kafka, mais ça ne nous donne pas la compréhension de qu'est-ce qu'il avait dans la tête quand il a écrit ça. Évidemment, il ne pensait pas à l'avenir, il pensait à des choses qu'il a connues à son époque. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, autre chose qu'il faut dire, le procès ne décrit pas un état totalitaire. Il faut le dire aussi, parce que la première phrase du procès, si vous vous rappelez, dit « Josef K. a été réveillé le matin, à l'heure du laitier, par deux policiers il n'avait rien fait. Comment se fait-il qu'on vient le perturber chez lui, n'est-ce pas? Nous vivons dans un état constitutionnel où règne la loi. Voilà l'étonnement de Joseph K. qui est réveillé le matin par ses policiers. Il n'a rien fait. Nous vivons dans un état constitutionnel, légal. Pourquoi? Voilà. Donc, ça ne parle pas vraiment d'un état totalitaire, c'est un état normal, entre guillemets. Ça, il faut le prendre en compte. Bien. Alors, à quoi, disons, autre chose, il faut dire, Kafka, ce n'est pas quelqu'un qui veut donner un message par son œuvre. Pas du tout. Il y a des auteurs qui disent, bon, je veux dire au public que telle chose, que la guerre est mauvaise, ou que la liberté c'est bien, je ne sais pas. Il y a un message. Kafka, pas du tout. Il n'a pas de message à donner, mais il exprime un état d'esprit, un sentiment. Et dans cet état d'esprit, ces sentiments, cette chose qui s'exprime, évidemment, entre son expérience et l'expérience historique de son époque. Voilà. Alors, l'hypothèse que je développe, c'est que le point de départ, disons, de l'inspiration de Kafka pour écrire les procès, peut-être pas consciemment, je ne sais pas si c'était conscient, mais en tout cas, je pense que c'est une hypothèse légitime, c'était le procès antisémite de son époque. Parce que dans ces procès antisémites, arrivait comme il arrive à Joseph K., qu'un bonhomme qui n'a rien fait de méchant se trouve un jour arrêté, accusé des pires crimes, parfois emprisonné, parfois exécuté, etc. Et Kafka avait connu à son époque plusieurs de ces procès. Alors je vais citer juste quelques-uns et le rapport qu'avait Kafka avec ces procès. Alors, d'abord, il y a eu le procès Tisha. T-I-S-Z-A, Tisha, en Hongrie, 1882. Bon, c'est une famille juive qui est accusée de crimes rituels, tuer des enfants chrétiens pour tirer leur sang, fabriquer des matzot, vous connaissez. Bon, et c'est une histoire particulièrement tragique parce que l'enfant ou le jeune, il y avait un jeune dans la famille qui a été cuisiné par la police aussi longtemps qu'il a finalement dénoncé sa famille. Il a dit, oui, mon père a tué ma mère, bon, c'était une histoire terrible. Bon, il y a eu le procès. Bon, finalement, les preuves se sont avérées complètement inconsistantes. Et la famille a été libérée, mais enfin, ils ont passé, des années en prison. Enfin, je ne me rappelle plus les détails, mais c'était une histoire dramatique. Alors, il y a un écrivain juif allemand qui a écrit là-dessus une pièce de théâtre. Le nom m'échappe maintenant. Et Kafka a lu cette pièce de théâtre sur l'affaire Tisha et il a été bouleversé. Il a noté dans son journal, lu la pièce sur le procès Tisha, j'ai pleuré. Alors, il y a des textes qui ont été écrits là-dessus et un article qui s'appelle « Les jours où Kafka a pleuré ». Parce qu'il ne pleurait pas tous les jours. Si on lit son journal, il n'y a pas beaucoup d'incidents. Il dit « j'ai pleuré ». Donc ça l'a bouleversé, cette histoire. Bon. Donc ça, c'est le premier type de ces procès. Ensuite, il y a eu évidemment l'affaire Dreyfus, un peu plus tard. Curieusement, ça l'a moins frappé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il n'y a presque pas de référence à l'affaire Dreyfus dans ses écrits, dans son journal. Bon, il en a évidemment pris conscience. Bon. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais bon, c'est moins présent. Mais ça fait partie. Après, il y a eu un procès en Tchécoslovaquie. 1899-1900. Bon, Kafka était jeune encore, mais enfin, il a suivi ça. Les procès Ilsner. Bon, là aussi, on a accusé un jeune de crimes rituels, bon, tout un cirque. Emprisonné, condamné à mort. Heureusement, il y a un avocat, et plus tard, figure politique tchèque, Masaryk, qui a mené campagne pour lui, et finalement obtenu la peine de mort a été commuée en prison à perpétuité. Bon, imaginez. Bon. Et ça, aussi, ça a beaucoup impacté Kafka, d'autant plus que c'était dans son pays. Et il a dit à des amis, bon, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'est-ce que c'est d'être juif. Et dans les lettres à sa maîtresse, Milena, il dit, voilà, qu'est-ce que c'est l'antisémitisme, je m'identifie avec ce Hilsner, ce type qui a été jugé, bon, voilà la terreur qui nous menace, etc. Donc ça, vraiment, ça l'a beaucoup impacté. Et le quatrième procès, c'est le procès contre Baylis en Russie. Hein? Bon, là, même histoire, crime rituel, etc. Un procès vers 1900, début du siècle, 1909, je pense, bon, concocté par la police russe, tsariste. Bon. Alors, ces procès-là avaient eu avaient fait beaucoup de bruit dans le monde entier, notamment à Prague. Les amis de Kafka, sionistes, qui avaient un journal qui s'appelait Selbstwehr, Autodéfense, publiaient beaucoup d'articles sur ces procès. Kafka lisait ce journal. Et un jour, il a pris sa plume et il a écrit un conte ou une nouvelle sur le procès Baylis. Hein? Bon, malheureusement, ça fait partie de papiers qu'il a brûlés. Donc, on ne l'a pas. Mais on sait qu'il a écrit parce qu'il a dit à son ami, Dora Diamant, sa dernière amie, voilà, j'ai là un texte sur le procès Baylis, mais bon, je vais brûler ça, demain matin, je vais jeter tout ça dans le feu. Bon, voilà, donc on ne l'a pas. Mais enfin, son intérêt a été à ce point qu'il a écrit là-dessus un texte. Bon. Voilà, donc, je pense que c'est ça le background hein, historique pour le procès. Hein, des procès contre des juifs parfaitement innocents, hein, accusés de choses absurdes, et condamnés, parfois condamnés à mort, et ça, parfois dans des états absolutistes, comme l'état tsariste en Russie, ou dans des républiques, comme la République française avec Dreyfus, ou dans des monarchies constitutionnelles, comme l'Empire austro-hongrois. Voilà. Donc, quelle que soit la forme de l'État, ces choses-là arrivent. Ces choses-là arrivent. Donc, je pense, et je vais conclure avec ça, que... ah oui, il faut ajouter une chose, oui, d'accord. Mais Joseph K., il ne s'appelle pas Cohen. Ça aurait pu être Joseph Cohen. Hein? Bon, là, on aurait dit, voilà, c'est un livre sur l'expérience juive. Alors, pourquoi Kafka l'appelait Joseph K., point hein? On peut dire Kafka, ça ressemble à Kafka, mais bon, pas ça. Il y a une raison, c'est que Kafka ne voulait pas raconter une histoire juive. Hein. Il voulait raconter une histoire universelle. Hein. Donc K, ça peut être un juif, un autrichien, un bosniaque, enfin, peu importe. Hein. Il n'a pas de nationalité, pas d'identité. C'est un personnage universel. Donc, mon hypothèse, c'est que Kafka a découvert dans l'expérience juive de tous ces procès antisémites une espèce de quintessence de l'expérience humaine à l'époque moderne, l'individu livré aux structures opaques, hein, inhumaines de ces appareils étatiques, bureaucratiques, judiciaires, etc., etc., dans lesquels l'individu est broyé. Hein. Bon, donc ça c'est disons quelque chose qui fait partie de l'histoire du XXe siècle. Bon, Kafka a découvert, à partir de l'expérience juive, cette condition de l'expérience humaine moderne au XXe siècle. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.
Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez apporter des témoignages? Je suppose. Voilà. Oui, allez-y.
Je voudrais vous en parler de la métamorphose, si vous avez également une interprétation à vous.
La métamorphose. Eh bien, d'accord. C'est mission impossible. Hein? Mission impossible. Bon. C'est une œuvre tellement riche, tellement complexe. C'est très difficile. Très difficile. Bon. Mais enfin, je vais m'y risquer. Bon, première chose, encore une fois, inutile de chercher un message. Ça, c'est très important. Hein? Kafka, ce n'est pas quelqu'un qui envoyait des messages par ses œuvres. Il donnait libre cours à son état d'esprit. C'est autre chose. Et on a une preuve de ça. Les premiers textes qu'il a écrit, un des premiers textes qu'il a écrit, une première nouvelle qui s'appelle Le Verdict. C'est une histoire terrible. C'est un père qui envoie son fils se tuer. Bon. Il a envoyé ça à sa fiancée, à l'époque, de Félix Bauer, en disant, voilà ces textes que j'ai écrits. Est-ce que tu comprends quelque chose à ça? Moi, pas. Voilà. Et tout est dit là. Voilà. C'est pas quelqu'un qui dit, ah, voilà, je vais, et telle chose va être un symbole de telle autre. Non, non, pas du tout ça. Et c'est son esprit qui, bon, qui voyage et il donne libre cours à ses sentiments. C'est tout. Bon, alors, la métamorphose, je vais parler seulement un aspect. Hein, c'est impossible, je dis c'est impossible. Mais je vais parler d'un aspect où je pense que j'ai une petite piste, disons. Alors, mon hypothèse est la suivante. Les premières nouvelles de Kafka, comme celle dont je parlais, les verdicts, le père qui envoie le fils s'est suicidé, la métamorphose, quelques autres, ont pour thème les conflits du fils avec le père. Un conflit qui était vécu par Kafka avec son père, hein, Franz contre Hermann, qui était le père. Et on connaît un document qui s'appelle « La lettre au père ». Kafka écrit quelques années plus tard, pour se plaindre de son père, tu m'as opprimé, tu as été un tyran, etc. Bon, c'est un document terrible, hein? Et heureusement qu'il ne l'a pas envoyé, sinon le père aurait une attaque cardiaque. Bon. La mère a dit, non, non, écoute, il ne faut pas lui donner ça. Bien, il a eu pitié. Mais là, les documents restent. Donc il y avait un conflit terrible entre les pères et les fils. Et le fils ressentait l'autocratie, la domination du père qui voulait lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'il faut se marier avec une telle femme et pas avec une autre, et qui voulait l'obliger à travailler dans son usine. Et Kafka détestait l'idée d'être le patron dans une usine. Enfin bon, donc il y avait des conflits très durs. Et bon, il y a un moment où le père dit à Kafka, bon, tu vas demain, tu vas aller à l'usine parce que le gérant a dû s'absenter. Et Kafka, il veut pas aller à l'usine. Et il est vraiment désespéré et il dit, bon, je vais sauter par la fenêtre et voilà, ça va résoudre le problème. C'est écrit dans son journal. Donc ça allait jusqu'à ces points, n'est-ce pas, les conflits. Donc, conflit avec le père, c'est l'affrontement avec la tyrannie paternelle. Ou, pour une autre formule, de Milan Kundera, l'écrivain parlant de Kafka, de ses premiers textes de Kafka, il parle de totalitarisme familial. Hein, une curieuse expression. Bon, alors cet aspect existe dans la métamorphose. Il n'est pas le seul, hein, mais il existe. Il existe sous la forme du conflit de Gregor Samsa, le pauvre qui s'est devenu un terrible insecte, et son père, qui est évidemment vraiment furieux. Et à plusieurs reprises, le père tente de les tuer avec son bâton. Et bon, Gregor, insecte, s'échappe. Bon, et la mère le sauve un moment, elle dit non, il ne faut pas les tuer, etc. Et finalement, le père lui jette une pomme ou quelque chose qui va entrer dans le corps de Gregor et qui va finalement les tuer. Donc, il est littéralement tué par le père. Bon. Et donc, je pense que c'est la mise en scène, un des aspects de la métamorphose, c'est ces conflits avec le père. D'autant plus, je le pense, que, alors, mais on peut se dire, mais pourquoi un insecte? Il aurait pu montrer, bon, comme dans l'autre, le verdict, il y a les fils et les pères, mais il n'y a pas d'insecte. Pourquoi l'insecte? Alors là aussi, j'ai une hypothèse. Dans la lettre au père, Kafka dit à son père, tu me traitais parfois comme si j'étais un insecte. Et les mots allemands qu'il emploie, Ungeziefer, c'est le même qui apparaît dans la métamorphose. Hein? Gregor Samsa s'est réveillé un jour, il était transformé dans un Ungeziefer. Hein? Donc le même mot. Donc il y a cette idée, Kafka se plaint dans la lettre au père, tu me traites comme un insecte. Alors un jour il s'est dit, imaginons, qu'est-ce que serait si j'étais un insecte? Comment est-ce que mon père allait me traiter, n'est-ce pas? Bon, voilà. Ça, c'est une hypothèse, hein, je dis, et c'est juste un aspect de l'histoire hein, qui est beaucoup plus riche de mille autres dimensions, bien entendu.
Il semble bien que la disparition des empires n'est pas franchement réussie aux Juifs. Je pense à l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique. On se retrouve avec, après 14-18, avec la montée du nationalisme extrêmement puissant, en Europe centrale et orientale en particulier.
Oui.
De la même manière, on retrouve aujourd'hui en Europe centrale et orientale des grands courants antisémites.
Oui.
Aujourd'hui en Hongrie, par exemple.
Ah, oui.
En
ouais.
Roumanie, en Bulgarie, des groupes d'extrême droite.
C'est vrai.
En Pologne.
C'est vrai. Mais disons, la chose est un peu plus compliquée parce que c'est pas immédiatement, c'est pas la chute de l'Empire elle-même qui a produit ça, au moins dans le cas de l'Empire austro-hongrois ou de l'Empire allemand. Hein. C'est-à-dire, dans un premier moment, il y a eu pendant 13 années, pour être précis, 14 années, il y a eu une floraison économique, sociale, culturelle et intellectuelle extraordinaire du judaïsme, aussi bien en Autriche-Hongrie que en Allemagne. Hein, Allemagne à l'époque de Weimar. Hein, bon. Donc, disons, la fin de l'Empire a permis, pendant une époque de la démocratie, que la démocratie a duré, un extraordinaire développement de la culture juive. Bon. Mais après, effectivement, les courants conservateurs, régressifs, antisémites, fascistes, etc., bon, ont pris le pouvoir en Allemagne, un peu plus tard en Autriche, et voilà, et on connaît le reste de l'histoire, effectivement.
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous parler de Trieste
Ouh,
parce que
là.
C'est assez...
Oui.
Oui. Toutes les cultures se mélangeaient, je crois.
C'est ça, oui. Hein. Écoutez, hélas, non. Je ne peux pas vous parler de Trieste. Je connais très mal cette histoire. Bon, je sais que c'est un lieu intéressant. Voilà, exactement. Donc, il y a là quelque chose de très intéressant. Mais bon, ça fait plutôt partie de la culture juive italienne, hein, en dernière analyse. Hein. Bon,
nous sommes de Trieste.
Hein, vous êtes des Trieste. Bon. Donc, je ne sais plus exactement quel moment Trieste a passé à l'Italie, c'est après la guerre. Oui, voilà. Donc, l'histoire de la culture juive de Trieste, bon, elle était un moment, elle a fait partie de l'Empire, etc. Mais, bon, un peu cette culture juive de Trieste, ça s'est investi, disons, dans la culture juive italienne. Hein. Donc, c'est un peu une autre histoire, hein, que je connais mal, franchement. C'est un peu en marge de mes... de mon petit territoire, là. Non, c'est pas de votre faute, c'est ma limitation. Hein. Bon, voilà.
Je voudrais vous poser une question. Vous avez décrit le nombre d'intellectuels juifs, de créateurs, puisque Doris a trouvé comme thème de cette année la créativité des juifs.
Oui.
Donc la liste est longue.
Le peuple est juif, non, des juifs.
Et après, vous avez décrit les rapports qu'entretenaient ces penseurs hyper assimilés avec le judaïsme, et vous avez montré que c'était très complexe. Moi, je me demande si la créativité ne réside pas justement dans cette complexité, c'est-à-dire que ces gens-là, ils étaient dans une double culture, et Kafka, c'est ce qu'il y a de pire, parce que lui, il était déraciné, on peut dire. Il n'a jamais trouvé, finalement, où s'enraciner. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui était facteur de créativité
Oui, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. c'est vrai que beaucoup de ces juifs étaient à cheval entre plusieurs cultures. Hein, et ça, c'est un atout, évidemment. Bon, les juifs hongrois, ils étaient des cultures allemandes, juives, bon, il y avait l'aspect juif, plus l'aspect hongrois. Hein. Et Kafka, lui, même s'il était des cultures allemandes, il parlait les tchèques, il lisait les tchèques, sa copine était tchèque, Milena, bon, donc, il était à cheval entre trois cultures, bon. Et ainsi de suite. Hein. Bon, à Vienne, un peu moins, mais enfin, ça se trouve aussi. Bon, donc, c'est vrai que c'est des gens qui, dans leur propre créativité, bon, il y a cette diversité culturelle, cette richesse culturelle, hein, multiple de différentes cultures qui contribuent, hein. Mais bon, c'est pas la seule explication, parce que bon, je sais pas, Freud, par exemple, bon, il était juifs autrichiens des cultures allemandes et un point c'est tout. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses, hein, à ma connaissance. Bon. Et pourtant, c'était un génie. Bon, une en Andalousie. Hein, oui. En Andalousie, au XIIIe, XIVe siècle, oui. Là aussi, bon, on a apparaître des grands penseurs juifs. Bien. Et il y a eu quelques moments comme ça dans l'histoire du judaïsme.
Mais en fait, bon, ça vraiment, bon, je crois que ce qui est important, c'est justement ce pays, cet empire multiculturel. Mmh. Et finalement, il y a des passages, des apports. Mmh. Et ce qui est quand même intéressant, moi je me suis surtout plongée dans Zweig. Mmh. Bon, mmh. En fait, il parle jamais, ils écrivent jamais rien sur les juifs. C'est toujours quelque chose d'autre. Ouais. Et finalement, quand ça arrive, eh bien, ils ne peuvent pas s'en défaire de leur identité juive, qui évidemment bah, qui est une identité juive sécularisée, dirait les Américains, et nous on dit laïque, et c'est justement ça qui est l'intérêt là, qu'on a choisi pour la créativité, parce que bon, Freud, évidemment, il a inventé quelque chose, qu'offre le monde sans Freud, comme Karl Marx.
Ouais.
Bon, on y reviendra peut-être, puisqu'on a Dominique Bourrel le 26 novembre. Il va nous parler donc des juifs allemands. Bon, je vais essayer de faire parler de Karl Marx, ce qui n'est pas évident, parce que lui, il est plongé dans Martin Buber. Ouais. Mais tout ce monde-là a inventer quelque chose de nouveau et apporte à la fois pris dans la culture et inventé dans la culture. Mmh. Et au moins, enfin, ben si, quand même, bon, évidemment, il y avait l'âge d'or, entre guillemets, espagnol, allemand, mais. Ce qui est terrible, c'est que chaque fois, ça craque, et puis, ce qui est quand même étonnant, que chaque fois, quelque part dans le monde, ça ressurgit, et qu'en fait, finalement, on trouve des juifs partout. ils sont pas nombreux, mais il y a des juifs pas du tout africains qui sont en Afrique et qui construisent des choses importantes subitement en Afrique. On a comme ça des gens tout à fait éloignés qui subitement nous découvrent. Bon, alors ils peuvent nous écrire quelque chose, bon, ça nous est égal, on leur envoie notre bulletin, mais et c'est très très important parce que ils font quelque chose justement un peu pour le monde qui n'est pas tout leur, enfin, là. Et je crois que c'est important parce que moi j'aime pas le repli sur nous, si on a, enfin, dans ma petite tête, j'ai proposé ce thème de l'année, c'était parce que j'avais justement pas envie qu'on parle sans cesse de l'antisémitisme, de la Shoah, et qu'on fait surtout de la Shoah un pôle identitaire. Alors voilà, parce qu'il y a d'autres, c'est pas du tout pour créer qu'on est bien, mais c'est qu'on peut apporter quelque chose et prendre à l'autre, enfin quelque chose comme ça, je crois. Et là, c'est quand même très important ce que tu viens de nous dire là, parce que tu as mis un peu de l'ordre dans
Je vais poser une question. Attendez. Attends. Je vais poser une question à Doris. Doris, je vais te poser une question qui me concerne comme Brésilien. Parce que Stefan Zweig est venu au Brésil comme exilé. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le Brésil, pays du futur », plein d'enthousiasme. Et un an après, il se suicide. Voilà. Pourquoi ? Tu peux m'expliquer ça ? Toi qui es spécialiste de Stefan Zweig.
Parce que justement, il a dû quitter son monde et qu'il a vu ce qui est arrivé et que pour qu'il se suicidait, il ne pouvait plus supporter la situation dans laquelle il était, je crois.
Alors, pour résumer, si j'ai bien compris, cette situation de Kafka qui était à porte-à-faux, dans un monde où la civilisation allemande dominait, où le nationalisme tchèque montait, et lui-même, il était juif, donc il était tout de même imbibé de judaïsme par sa famille. Donc c'est une situation qui provoque la créativité. C'est comme ça que j'ai compris les choses.
Oui, peut-être.
Monsieur a demandé la parole depuis très longtemps.
En gros. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette conférence. Je trouve que non seulement ce que vous dites est intéressant, mais par ailleurs, c'est plein d'humour. Donc, c'est appréciable de ce point de vue-là. Je voulais vous poser une question. Vous avez évoqué la théorie juive de Freud. Alors peut-être que vous pourriez nous éclairer sur cette théorie juive de Freud. Je comprends bien qu'il y a le problème du latent et du manifeste, qui est une piste, mais j'aimerais... je pense aussi que ça pourrait intéresser.
On va avoir une sorte de lecture sur Freud.
Oui.
Sur Freud, oui.
Non, c'est la théorie juive.
Oui.
Sur Freud.
Oui.
Justement... bon, c'est l'homme Moïse là qui l'a écrit à Freud, en fait. Non, c'est pas ça.
Comment dire? Vous faites référence à cette lettre, Abraham. Il ne parle pas des théories juives, non? Il dit... le terme n'est pas bien choisi. Il voulait dire, je n'ai pas les termes exacts, je n'ai pas les textes avec moi, mais tel que je me rappelle, il disait à Abraham, finalement, cette psychanalyse, tout ça, c'était quoi? C'est une affaire juive. C'est une affaire juive. Nous sommes tous des juifs. C'est une affaire juive. Bon, il n'a pas dit exactement. Bon, effectivement, il suggère que pour un non-juif, c'est difficile de comprendre ça. C'est pour ça qu'il parle de Jung. Carl Jung, il dit, il a du mérite, ce petit, n'est-ce pas? Bon, donc, c'est ça un peu. Maintenant, qu'est-ce que, dans la pensée, dans la théorie, effectivement, qu'est-ce qui est spécifiquement juif? Ça, c'est très difficile à répondre. C'est très difficile. Je ne sais pas, il y a d'une certaine façon, il y a ce que je disais à partir d'un il y a une espèce de distance prise par rapport à la pensée dominante sur la famille, sur la psychologie. Bon, c'est un outsider Freud, c'est vraiment un outsider Bon, les milieux bien pensants de l'académie, de la médecine, etc., bon, ils ne se posaient pas des questions de ce type. Bon, donc, les juifs, c'est l'outsider. C'est le type qui est un peu en marge et qui, donc, pose des questions absolument insolentes. Donc, il y a quelque chose là. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que sur tel ou tel aspect de la théorie freudienne, que c'est juif. L'inconscient, il est juif. Non. On peut dire, par exemple, les livres sur le witz, les mots d'esprit. Bon, là, oui, on peut dire, les mots d'esprit, c'est une affaire juive. Parce que les histoires qu'ils racontent, beaucoup sont juives, etc. Bon, donc, il y a un rapport entre l'analyse qu'il fait du mot d'esprit et ce qu'on appelle l'humour juif. C'est-à-dire l'auto-ironie, enfin, des choses comme ça. Bon, donc là, on peut éventuellement trouver un rapport entre le... dans l'analyse qu'il fait du mot d'esprit, du witz, et l'humour juif, peut-être, c'est une hypothèse. Mais sur le grand thème de la psychanalyse, je ne sais pas, peut-être, hein, j'ai pas fait une recherche sur le terrain, donc je ne me risque pas. Il vaut mieux demander à quelqu'un qui est un spécialiste des études freudiennes pour vous répondre.
Oui, ben, c'est très intéressant tout ça. Il y a la possibilité de faire 3, 4, 5, 6 conférences.
Pas moi, il faut laisser aux autres aussi.
Mais je voudrais poser une question, savoir s'il y a d'autres créateurs comme ça, juifs,
oui,
dans le domaine des sciences, de la peinture, de l'architecture.
Oui.
Je pense à Otto Wagner, l'architecte de la sécession. Là, en
oui.
Est-ce qu'il était juif ou pas?
Non.
Pas à ma connaissance.
C'était un Otto Wagner.
Non, Bauer, Otto Bauer.
Ah, Otto Bauer.
Otto Bauer et Max Adler.
Il y a dans ce domaine, dans d'autres domaines,
oui,
sciences, peinture, des gens. Comme
il y en a.
Il y en a.
Il y en a, mais franchement, je ne suis pas capable maintenant de vous citer beaucoup de noms. Il y a des musiciens pour commencer.
Adolf Loos.
Adolf Loos était juif. Bon, voilà. Donc il y a Adolf Loos. Bon. Voilà. Bon, il y en a. Est-ce qu'elle est spécifiquement juive, son architecture? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Bon. Judenstil.
Ils
ont conçu depuis 1900. Ils ont développé à partir du 19e siècle.
Intéressant.
Les architectes étaient
pas
dedans. Un certain style qui soit vraiment hongrois. Et alors les Hongrois, c'est les Juifs qui ont conçu ça, ils appelaient ça Judenstil.
Ça c'est très curieux. Ça c'est très curieux. Je ne savais pas ça, mais c'est très curieux.
Mais
non.
Ça, vous savez qu'on appelait Budapest Judapest.
Oui.
Non, parce que les créateurs, il y en a dans tout.
Il y en a dans tous les domaines. Absolument. Et ça doit exister. Malheureusement, ce n'est pas tellement mon domaine, mais je ne connais pas tellement, mais sans doute, il y a des architectes, des musiciens, des scientifiques, beaucoup en médecine, par exemple, presque tout le prix Nobel de ces années-là, bon, sont des juifs, etc. Bon, mais c'est un domaine que je ne connais pas assez.
Hein.
Après, ils sont partis aux États-Unis. Mais enfin, on parle de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire jusqu'en 1918.
Là, moi, je crois que c'est important aussi. C'est le rôle... qu'ils ont joué dans la presse.
Bien sûr.
Par exemple, non, la vraie presse est à Vienne.
Voilà. Oui, oui, absolument.
Et d'autres, mais donc, oui, oui, la presse était dans des mêmes juifs.
Oui.
Et effectivement, ça s'est débattu,
oui.
Quand en Autriche, finalement, il y avait déjà Dollfuss. Pour qui il avait été assassiné, il y avait Schuschnigg,
oui.
Et bien, en fait, Schuschnigg peut-être un peu moins, mais ça n'a pas duré, et les nazis étaient présents, enfin, et en fait, l'Autriche manque toujours, là, bon, avec l'histoire de Jorga qui vient de se tuer, là, eh bien, on voit comme l'Autriche est en train de mentir et dire qu'il n'a pas acclamé Hitler. Hein,
hein. Bien sûr. Bien sûr. Il faut rappeler que Hitler s'appelait Adolf Schicklgrube et qu'il était autrichien.
Entre autres. Oui.
Et peintre. Bon. Pas très doué. Bon. Donc, voilà. Ça, c'est l'autre, le revers de la médaille, évidemment. Hein. Bon, le revers de la médaille, c'est l'antisémitisme, bien sûr.
Ouais. Alors, vous pensez vraiment que c'est les procès, les 4 procès, dont 3 étaient des procès de crimes rituels, qui ont influencé un peu Kafka?
Je pense parce que, comment dire, il n'y avait pas beaucoup d'autres procès à l'époque qui ont frappé l'imagination de Kafka. Hein. S'il y avait d'autres procès, on aurait pu dire, bon, il y a eu un procès politique, je ne sais pas, en Tchécoslovaquie. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a un autre procès qui ne concerne pas les Juifs et que Kafka a réagi. Hein. Ça, c'est vrai. Mais c'est le seul cas, hein, c'est le seul cas d'un procès sur un non-juif. Ça s'est passé en Espagne, en 1909. Il y a eu un espèce de soulèvement anarchiste à Barcelone, et qui a été réprimé, et la monarchie, enfin le régime monarchique espagnol, a arrêté un professeur qui était de culture anarchiste, disons, qui avait une école où il éduquait les enfants dans l'esprit libertaire, disons, qui s'appelait Francisco Ferrer, qui était très connu dans toute l'Europe par sa pédagogie moderne. Donc, ils ont pris ce Francisco Ferrer, on dit, c'est de ta faute, à cause de ton école, on a eu ça, n'est-ce pas? Bon. Et on lui a fait un procès absurde, hein, kafkaïen, on peut dire. Bon, et on l'a fusillé. On l'a fusillé. Et il y a eu des protestations dans toute l'Europe. Beaucoup de gens, pas seulement les anarchistes, mais beaucoup de gens ont protesté. À Prague, il y a eu une manifestation de protestation, et on sait que Kafka a participé. Bon, donc on ne peut pas dire que c'est uniquement le procès juif, mais c'est surtout, parce que c'est surtout ces procès-là qui apparaissent mentionnés dans son journal, dans sa correspondance, etc. Et on sait que ça l'a concerné, ça l'a touché, ça l'a ému, ça l'a bouleversé, ça l'a fait pleurer, comme je dis. Bon, donc, à mon avis, c'est, disons, raisonnable, supposer que c'est ça qui lui a inspiré, bon, l'idée de l'individu innocent qui se fait attraper. Bon. Mais il y a cet autre cas, hein, Francisco Ferrer, bon, je pense que ça a joué un rôle aussi, mais bon, la plupart des cas étaient vraiment le procès antisémite, je pense.
Je voulais vous poser encore une question au sujet de Kafka.
Allez-y.
je voulais savoir comment il se considérait comme tchèque, comme juif, ou de culture allemande,
ouais,
parce
ouais.
que je compare à ceux des intellectuels de juifs hongrois,
ouais.
comme Lukács, vous avez mentionné, qui se considéraient vraiment comme hongrois. C'est incroyable aujourd'hui d'imaginer à quel point
ouais.
ils étaient persuadés d'être des vrais hongrois, de religion mosaïque ou d'origine juive, mais des hongrois, pas 99, mais 100%. Et quelquefois, ça déplut d'un endroit qui est non-juif, que comment qu'il ose se considérer à ce point-là hongrois, plus que moi.
Oui, non, c'est vrai.
C'est pas le cas de en Tchécoslovaquie, que ce soit Kafka ou d'autres.
Oui. Oui, c'est intéressant. Il y a une comparaison à faire, qu'effectivement, bon, les juifs hongrois aussi étaient des cultures allemandes, et Lukács, un bon exemple. Bon, il pouvait se dire hongrois, mais il écrivait la plupart de ses textes en allemand. Bon, et voilà. Mais, bon, donc il y avait cette idée, culture allemande, langue allemande, mais identité hongroise affirmée, c'est vrai. Et à Prague, beaucoup moins, hein, beaucoup moins. Bon, Kafka, il travaillait pour une institution tchèque, il lisait les tchèques, il écrivait. Bon, sa maîtresse était tchèque quand même, bon. Mais, bon, il n'irait pas dire « je suis tchèque », bon, non, pas tellement. Qu'est-ce qu'il était? Comment il se définissait? Bon, il y a une lettre où quelqu'un lui demande, mais tu es juif ou tu n'es pas juif? Il dit, tu appartiens au peuple juif? Il dit, j'appartiens à rien, je n'appartiens même pas à moi-même. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Hein? Bon, donc, il était ni juif, ni allemand, ni tchèque, ou tous les trois à la fois. Voilà, c'était ça.
Vous pouvez résumer la thèse d'Anna Arendt lorsqu'elle évoque tous ces grands esprits et qui avaient tous une grande difficulté d'être eux-mêmes et ils se révélaient les plus grands germanistes, les plus grands hongrois, les meilleurs nationalistes. Et puis, elle décrit la misère de Kafka en disant finalement, il était écrasé par la bureaucratie, et il n'avait qu'une ambition, c'était de passer inaperçu ou d'être reçu dans les salons de la bonne société. Est-ce que ça vous convient comme définition?
Je ne pense pas qu'Anna Arendt dit ça, en tout cas ce n'est pas ce que je me rappelle de ce qu'a dit Anna Arendt. Non, Anna Arendt voit Kafka comme un exemple typique de ce qu'elle appelle les juifs parias conscients, conscients que la société l'exclut, l'opprime et donc rebelle. Hein. Et elle interprète ses œuvres dans cet esprit-là, hein, comme l'œuvre d'un juif paria conscient. Et on peut critiquer ces lectures des œuvres, j'ai quelques désaccords avec son... Mais je pense que l'hypothèse fondamentale, elle est juste. N'est-ce pas? Kafka était un de ces juifs parias rebelles. Hein, je pense que là, elle a tout à fait raison. Maintenant, son analyse, par exemple, du procès, elle est très intéressante, je trouve qu'elle a compris beaucoup de choses, mais elle n'a pas perçu l'aspect juif du procès. Hein? C'est ce que j'essayais de montrer. Par contre, elle a pris l'autre œuvre de Kafka, qui est Le Château, et elle dit, voilà une œuvre qui est entièrement juive. Et je ne trouve pas. Franchement, je ne trouve pas. Et le personnage du château, qui est K, pas de Joseph, juste K, il n'est pas juif ni non-juif. Il est l'individu déplacé, hors de sa place, migrant, si on veut, marginal, universel. Bon, il n'a aucune particularité juive, je ne pense pas. Hein. Je trouve qu'elle force un peu l'interprétation. Mais en tout cas, l'hypothèse fondamentale de Hannah Arendt, c'est, d'une façon générale, bon, que la condition pariale des Juifs en Europe centrale, et évidemment aussi en Europe de l'Est, mais ça, elle ne parle pas, ce n'est pas tellement son terrain, moins en Europe occidentale, encore que, hein, avec l'affaire Dreyfus, bon. Mais en tout cas, elle parle de l'Europe centrale, et il dit, bon, il réagissait à ça, soit en voulant être admis dans les salons, Zalon Feik, bon, ça c'était les parvenus, hein, qui voulaient être conformistes, acceptés, etc. Et les autres, ceux qui acceptaient leur marginalité, la revendiquaient et la retournaient contre la société avec une œuvre qui est critique. Hein, et c'est ça le cas de Kafka.
Elle divisait en quatre catégories les parias, les parvenus, les juifs de cour.
Les juifs de cour.
D'exception.
Oui, mais les juifs des cours, c'est...
Les exceptions n'avaient pas de difficulté,
oui.
Mais on les regardait comme juifs.
Oui, 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 bien
malgré
sûr.
Malgré tout, même si c'était des grands personnages, ils n'y trouvaient pas leur place.
Oui.
Et dans la description du comportement de Kafka, elle dit que il avait du mal à trouver sa place.
Oui. C'est vrai.
Et que ça explique son comportement.
Oui. Oui. Non, c'est vrai.
Ouais. Je pense par rapport à ce que vous avez dit, madame, concernant cette émergence de vérité, cette émergence de connaissance et cette émergence de créativité. Et vous avez dit, quelqu'un dans la salle, il y a dit des effondrements de certains empires, etc. Mais je crois qu'en fin de compte, c'est l'histoire de notre exil. Parce que c'est mon simple sentiment, modestement je vous le dis, c'est que ce soit Kafka ou des autres auteurs, compte tenu de leur marginalité, c'est-à-dire leur mise de côté, ils ont conquis un territoire de création, pour venir à ce que vous dites. Ils ont inventé un territoire où ils sont, j'allais dire, les capitaines, les maîtres, les chefs d'équipage. Et en étant dans cette création, dans cette vague, dans cette tempête de création, qu'ils ont attiré leur attention de leur propre identité alors qu'ils étaient en exil. Et je crois que le fait d'être mis de côté, le fait du château, que ce soit être comparé à un insecte, je suis exclu comme un insecte, c'est encore une histoire d'exil. Et je crois que le fondement, que ce soit Hannah Arendt, et nos propres sentiments de réaction. Nous sommes toujours portés par la connaissance, ou la curiosité de la connaissance, parce que nous voulons conquérir un espace qui est un territoire que nous n'avons pas physiquement. C'est-à-dire, à l'époque, Israël n'existait pas. Il était en gestation. C'était là aussi en attente d'une création de territoire avec Herzl. Alors il y avait deux sortes de territoires, le territoire intellectuel et le territoire en création de l'État d'Israël. Mais les deux territoires s'opposaient, parce qu'un a été assimilé, Et il était obligé de s'assimiler parce que nécessité de vie est nécessaire. On doit s'adapter à l'environnement par nécessité de vie. C'est écrit. De l'autre, créer ce territoire intellectuel, architecte. Et je voulais revenir aussi, j'ai quelques livres, où la structure même du lycée allemand est tout à fait différente de la formation du lycée que nous connaissons ici. Vous avez des passerelles tout à fait formidables où on part vers l'intellectuel, où on part vers le manuel. Juste une petite histoire, l'Ort a été conçu comme ça en Russie.
Comment ?
L'Ort.
Oui, ah oui.
Donc, là aussi, c'était la conquête du territoire pour échapper à la renommée de l'histoire, comme quoi nous étions que des usuriers. Alors, on repassait par la construction d'un futur territoire. Et mon père a bénéficié de la formation juive pour devenir agriculteur dans une école juive en Tunisie, bien qu'il soit italien de souche italienne. Alors regardez la confrontation. Étant de souche italienne, était dans une école avec les Turcs. Les Turcs étaient probablement 14, et les Italiens étaient avec les Alliés. Et dans la cour de création, de récréation, il y avait deux points entre le Turc. Vous voyez l'identité du territoire, l'autre se disait turc et l'autre se disait italien, comme l'autre se disait hongrois. Alors on a gagné des territoires intellectuellement en disant « je suis hongrois, la terre est hongroise ». Mais en réalité, il a créé un fantasme de création littéraire ou architecturale ou poète, auquel cas les autres regardaient ce territoire nouveau. Ils avaient l'œil, à mon avis, de jalousie, parce que ce n'était pas leur propre création. Comment un juif a pu créer cette forme de pensée? Et c'est là que vous disiez, dans la créativité, des fois, ça s'effondre dans certains empires. Et cet empire s'effondre, moi, à mon avis, c'est par le retour du conservatisme, comme vous disiez, si bien, de la repossession de ce territoire intellectuel qui a été créé. Il ne leur appartient pas, parce que c'est une création juive. Et on veut effacer la création juive pour posséder cette création comme une identité autre que juive.
Non, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai très juste une petite note en bas des pages, c'est que Kafka, lui, n'avait pas l'ambition de conquérir un territoire. Parce qu'il écrivait parce qu'il avait un besoin d'écrire, mais il n'avait aucune ambition.
Il était en exil.
Il était en exil, bien sûr. Là, vous avez tout à fait raison. Mais il n'avait pas l'ambition de conquérir un territoire, parce que la preuve, c'est qu'il a donné des instructions pour qu'on brûle tous ses manuscrits. J'ai rien à dire, brûler tout ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'avait pas l'ambition. Par contre, vous avez raison, dans un sens, parce que pour lui, la littérature était une espèce de territoire, mais pas pour conquérir, mais pour se réfugier. C'est un refuge. Parce que...
C'était sa terre.
Oui. Parce que le monde, quand il était jeune, son père occupait tout l'espace. Donc, il s'est réfugié du père en s'enfermant dans une chambre pour écrire. Et après, il était dans son bureau, la bureaucratie, cette chose insupportable. Bon, là aussi, la littérature était son refuge. Hein, son refuge de ces mondes hostiles où il était, il ne se sentait pas chez lui. Hein. Dans ce sens, oui, c'est un territoire. Voilà. Bien. Bien.